Et oui, on s'intéresse à ce pic de chaleur qui arrive sur la France avec des températures exceptionnelles pour un début avril. On va en parler avec vous, Ruben Alali. Vous êtes météorologue et cofondateur de la start-up HD Rain. Marquet continue évidemment de nous accompagner. D'abord, on a une pensée évidemment pour les habitants de Lyon. Le département est toujours ce matin en vigilance rouge pour crue parce que l'onde de crue s'est déplacée en aval de Chablis. Chablis, où on va rejoindre Nicolas Laurent ce matin. Parce que Nicolas, il est dans le domaine du Chardonnay où il y a eu de gros dégâts en raison de la crue de l'Armançon et du Serein, pardon, du côté de Chablis. Quelle est la situation au pied des fûts de Chardonnay? Pardon, mais on est très inquiet.
Oui, on a abandonné la voiture un petit peu plus loin parce que la route était complètement impraticable. On a fini à pied et ça y est, effectivement, on est rentré dans le domaine. La bonne nouvelle, on le constate en même temps que vous, c'est qu'il n'y a plus d'eau. En revanche, vous voyez encore les traces de boue un petit peu partout et c'est source d'inquiétude. On va aller faire le tour du propriétaire. On va rejoindre Thomas qui gère ce domaine. Là, il y a les différents crus. On voit les traces et l'eau qui est montée jusqu'ici. Combien de centimètres, Thomas? Racontez-moi.
On a eu jusqu'à 40 centimètres au plus bas et environ 70 au plus haut.
Et l'inquiétude, désormais, on essayait de chiffrer les dégâts, c'est trop tôt, vous me le disiez, mais qu'est-ce que vous redoutez maintenant que l'eau s'est infiltrée dans certains tonneaux?
Là, c'est vraiment l'impact que ça peut avoir, vu que c'est des boues qui ont été ramenées et de l'eau qui est impropre de la rivière ou des égouts qui est remontée, et du coup qui a touché le bois, et on ne sait pas encore ce que ça va pouvoir faire, si ça peut infecter ou pas.
Donc là, il va falloir mener des analyses pour savoir si le vin est toujours bon et si on peut toujours le boire, c'est ça?
C'est ça, on va faire de la dégustation, des analyses en laboratoire, on va laisser un peu évoluer. On va déjà aussi essayer de nettoyer au maximum pour essayer de se rendre compte si ça a vraiment touché ou pas. Après, là, il n'y a que le temps qui pourra dire.
Oui. Mais ça engendre du stress forcément. Il y a les étiqueteuses aussi, les laveuses de bouteilles qui ont été impactées. Une bonne nouvelle quand même pour finir, c'est que ça y est, le plus gros est passé et le Serein, la rivière qui est juste derrière et qui a débordé hier, est enfin rentré dans son lit pour le plus grand soulagement des habitants et de Thomas juste derrière.
Merci beaucoup Nicolas Laurent sur des images de Mathieu Le Peignier. Je le disais à l'instant, Marc, on a du mal à imaginer que dans 48 heures, toutes ces intempéries seront derrière nous. Le ciel va se dégager,
oui.
Et les températures vont progresser et seront très vite largement au-dessus des normales de saison.
Oui.
Donnez-nous quelques chiffres.
On va passer d'un extrême à l'autre en réalité, puisque les températures vont fortement augmenter avec un pic de chaleur au niveau national qui est prévu pour samedi après-midi. Vous le voyez sur un axe situé entre la Nouvelle-Aquitaine, la région Centre-Val de Loire et le bassin parisien. Les températures pourraient s'établir entre 25 et 28 degrés, mais très localement en région Centre-Val de Loire ou en Nouvelle-Aquitaine, notamment au pied des Pyrénées, sur le Pays Basque, là on pourrait dépasser les 30 degrés. Donc ce sont des températures normalement observées en plein cœur de l'été au mois de juillet.
Ruben, comment passe-t-on aussi rapidement d'une masse d'air dépressionnaire et froide à une masse d'air donc anticyclonique et chaude?
Alors on a en fait une perturbation qui a plongé sur l'Atlantique, qui va être baptisée Olivia, et qui véhicule un flux de sud mais qui est très très puissant, c'est-à-dire que sur le proche Atlantique, on a à nouveau des masses d'air perturbées et on est avec ce flux de sud qui va transporter des masses d'air brûlantes puisque le Sahel a atteint les 48,5 degrés hier.
48.
Et donc, en fait, toute cette masse d'air chaud est véhiculée très rapidement en altitude et va impacter les températures sur notre pays.
Mais est-ce que ça veut dire, Ruben, que l'on va revoir ces images de ciel marron ou marronasse? Et est-ce que l'anticyclone va ramener vers nous ce sable que l'on a vu, peut-être revoir les images d'ailleurs, samedi à Marseille et aussi sur les pistes de ski?
Oui, et sur la région de Nice également. Effectivement, on est à nouveau avec des vents très violents sur le Sahara qui vont soulever ces poussières désertiques, qui vont être transportées. Donc il y a des modèles qui permettent de regarder un petit peu quel est le transport de ces poussières. Et donc il est très probable que ce week-end, on ait à nouveau ces images de ciel ocre très marquante, avec du coup des niveaux de pollution de l'air qui vont être importants,
oui,
en particules fines. Donc là, les personnes allergiques, effectivement, vont être particulièrement touchées ce week-end avec ces remontées de poussière du Sahara.
Mais 48 degrés au Sahel, c'est habituel à cette époque de l'année?
Alors non, on était vraiment sur des températures records. En fait, toute cette région, ça fait une quinzaine de jours qu'ils ont des records après records, des températures qui sont beaucoup plus élevées que la normale, que les normales, même si c'est le cœur de la saison chaude chez eux. D'habitude, on dépasse rarement les 40-45.
Et là, on s'est expliqué d'où viennent ces 48 degrés?
Alors, on est avec une année qui est déjà la plus chaude, exceptionnelle, sur les trois premiers mois de l'année. On le voit, en France, effectivement, le temps est un peu pourri, mais les températures sont très hautes. On est sur un mois de février et mars qui est à 10,1 degrés de moyenne sur la France métropolitaine, ce qui est le plus haut au-dessus du record précédent qui était dans les années 90.
Marc, en préparant ce rendez-vous, j'ai lu que ce qui est inquiétant, atypique, ce sont les températures particulièrement élevées en altitude. Je ne parle pas de la montagne, mais au niveau de 1500 mètres. Et que ça interpelle, ça. Oui, c'est atypique.
Parce qu'on parle de température en réalité à 850 hectopascales, donc à 1500 mètres d'altitude. Et donc à cette altitude, il est prévu samedi après-midi une température donc de 20 degrés à cette altitude. Et très clairement, 20 degrés à 1500 mètres d'altitude, c'est normalement une température que l'on voit en plein cœur de l'été en France. Donc là, on voit qu'avec 2-3 mois d'avance, on arrive déjà à avoir de tels niveaux de température. Mais surtout, aujourd'hui, en été, c'est commun d'avoir 20 degrés à 1500 mètres d'altitude. Mmh. Mais avant les années 2000, c'était extrêmement rare. Mmh. Donc, on est vraiment passé d'un extrême à l'autre. En été, maintenant, c'est habituel. Mais ce qui est très inhabituel, c'est d'avoir de telles températures à une telle altitude. Mais ça, début avril.
Ruben, vous nous voyez venir. Est-ce que cela augure d'un été caniculaire sur la France ?
Alors, c'est un peu tôt pour le dire, hein, mais on a déjà des premières tendances avec un modèle européen saisonnier qui donne en fait des tendances mensuelles. Et effectivement, on est déjà avec du rouge qui s'allume sur la carte pour juin, juillet, août.
Ce sont des modèles fiables ?
Alors, ils sont avec une marge de progression qui est encore importante, mais qui donne des résultats qui sont, pour le moment, quand même considérés comme assez fiables.
Donner quelques illustrations. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en juillet, pour les Jeux, par exemple, ça peut être étouffant.
Alors, encore une fois, c'est vraiment trop tôt pour le dire. D'accord. Mais effectivement, quand on a ce type de configuration qui, dès le mois d'avril, pilote des masses d'air très chaudes, il suffit qu'on ait à nouveau cette configuration au mois de juillet, au moment des JO, pour avoir ce risque de canicule.
Est-ce que ça va permettre, Marc, de compenser ce que toutes nos régions ont vécu ces derniers mois ? On pense au Pas-de-Calais et plus récemment à la Bourgogne.
En réalité, la réponse, malheureusement, est non, parce que cette période estivale, en gros, elle s'installe dès aujourd'hui dans le sud, elle progresse un peu vers le nord demain. Samedi, c'est une belle journée ensoleillée, sèche pour tout le monde, et puis dès dimanche, on voit déjà les perturbations revenir. Et pour la semaine prochaine, a priori, les conditions météo s'annoncent assez agitées, et localement, les perturbations pourraient encore apporter plusieurs dizaines de litres d'eau au mètre carré. Donc, c'est pas en trois jours que les sols vont s'assécher.
C'est-à-dire qu'après ce passage,
oui,
ça redémarre. C'est-à-dire que de nouvelles perturbations arrivent.
C'est en tout cas ce qui est envisagé par les modèles. Donc c'est vrai que c'est pas en
l'espace. C'est-à-dire dès dimanche, dès lundi,
en effet, retour des perturbations, baisse des températures. Alors c'est vrai qu'on maintenant on avance dans la saison, donc on va pas se retrouver à 11, 12, 13 degrés. On va monter au-dessus de 15 degrés maintenant en journée. Mais il n'empêche que les perturbations semblent vouloir revenir. Elles vont encore apporter de l'eau. Et c'est pas en trois jours que la situation, les sols sont saturés, ils vont le rester. Et d'ailleurs, on regarde actuellement la Seine qui monte à nouveau,
oui,
qui va très certainement dépasser les 4 mètres demain.
C'est-à-dire que les voies sur berge, par exemple, peuvent être fermées en région parisienne, que ça peut déborder ?
Ah ben alors, dès demain, entre Garigliano et Tour Eiffel, la circulation va à nouveau être fermée. Les quais pour le week-end vont être à nouveau fermés. Donc, par exemple, les quais ici, samedi, il fera très beau. Habituellement, on se balade sur les quais. Là, ça sera clairement impossible ce week-end parce que la Seine va dépasser 4 mètres de hauteur. Donc là, très clairement, en effet, on assiste à une nouvelle crue de la Seine. Et puis, vous savez, Paris est protégé par des lacs. 4 grands lacs réservoirs qui permettent... Des lacs de retenue qui permettent, en gros, de prendre le plus gros de l'eau qui arrive. Sauf que là, ces lacs, il y en a un qui est plein à 90%, d'autres, les trois autres, à 80%. Si dans les semaines à venir, il continuait de pleuvoir intensément sur les bassins qui alimentent la Seine et que ces lacs étaient pleins, au bout d'un moment, ces lacs ils ne font plus leur travail. Donc ça veut dire que la Seine peut être à un niveau élevé, plus élevé que la normale, dans les semaines à venir, et ça pose des questions par rapport aux Jeux Olympiques.
Ce qui est inquiétant dans tout ce qu'on se raconte, Ruben, c'est la rapidité avec laquelle les phénomènes météo changent. Voilà, là on le voit en 24-48 heures, mais c'est vrai pour tout.
Ça s'enchaîne très très vite, effectivement. On passe d'un extrême à l'autre, un extrême en sécheresse, un extrême en inondation, un extrême en température et à nouveau en température chaude. Donc effectivement.
Mais on a une explication scientifique à ça.
Alors on sait déjà qu'on était marqué par un phénomène El Niño dans le Pacifique qui fait que ça favorise ce type de comportement extrême de l'atmosphère. El Niño est plutôt sur la descente. On va basculer dans l'extrême inverse.
Vous voulez bien rappeler ce que c'est le phénomène
c'est
El Niño ?
C'est en fait des eaux chaudes qui s'accumulent sur, au niveau de la côte de l'Amérique du Sud de façon très inhabituelle. Et en fait, le Pacifique est tellement gigantesque, on ne se rend pas compte, mais ça occupe quasiment la moitié de la planète. Hein. Et donc, ce volume d'eau chaude de surface en fait, interagit très fortement avec l'atmosphère et provoque des rétroactions, des conséquences pour la totalité du globe. Et donc, quand on est avec un épisode aussi marqué que celui qu'on a eu ces derniers mois et cette dernière année, effectivement, on peut que s'attendre à des conséquences un peu partout sur la planète, des sécheresses, des inondations. Le plus difficile, c'est de comprendre où le phénomène El Niño dans le Pacifique va impacter dans le monde.
Oui, bien sûr.
Et de quelle façon, parce qu'on peut être d'un côté ou de l'autre.
C'est ce qui explique que la prévision météo est de plus en plus difficile, Marc.
Oui, la prévision météo, en effet, reste délicate. Je voulais juste rappeler quand même que depuis plusieurs semaines, on est dans ce qu'on appelle les fameuses giboulées, ces fortes averses. En fait, c'est le principe du printemps. Au printemps, vous avez les dernières descentes d'air froid et puis les premières remontées d'air chaud. Là, ce qui interpelle, c'est que ce n'est pas une petite remontée d'air chaud qui va nous concerner, c'est une grosse remontée d'air chaud. Si on avait, je vous parlais de cette masse d'air là, de 20 degrés à 1500 mètres d'altitude, si on transposait cette masse d'air en plein cœur de l'été, ce n'est pas entre 25 et 28 degrés qu'on aurait, c'est entre 33 et 38 degrés. Donc on serait en réalité, on serait en période de canicule.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin.